On va aller rejoindre tout de suite Patrice Saint-Pierre. Bonjour, Patrice.
Bonjour, Annick. Bon mardi à toi.
Patrice, merci beaucoup. On va commencer par un sujet qui est assez sérieux. On parle souvent de maltraitance envers les personnes âgées, nos aînés, en fait. Et là, on se rend compte, puis je lisais ça dans les journaux dernièrement, qu'il y a une bonne augmentation du nombre de plaintes en lien avec la maltraitance des aînés.
Oui, et ce qu'il faut voir, c'est que les situations de maltraitance sont bien présentes au Québec encore, malgré tout la prévention qu'on peut en faire. On a vu, par contre, au cours des dernières années, une explosion du nombre de cas. C'est ce que révélait la presse cette semaine, là, dans un article qu'ils ont compilé. Par contre, il faut mettre en perspective le fait que depuis quelques temps, en fait, depuis 2018, il y a une loi qui a été adoptée dans laquelle il y a une déclaration maintenant qui est obligatoire, des signalements qui doivent être faits dans le réseau de la santé, donc pour les gens qui sont en CHSLD, en ressources intermédiaires ou qui bénéficient de soutien à domicile. Donc, les personnes, les employés doivent eux-mêmes déclarer les situations de maltraitance qu'ils ont conscience. Donc, l'augmentation des cas n'est pas nécessairement qu'il y en a plus, mais qu'on est maintenant obligé de notamment les recenser.
De faire une plainte.
Oui, c'est ça. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Bien, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que d'un côté, on est capable d'aller travailler sur la situation et de la corriger, alors qu'avant, avec une déclaration qui n'était pas obligatoire, bien, ça faisait en sorte que la situation pouvait perdurer dans le temps. Donc, pour moi, il y a quand même là quelque chose d'intéressant. Par contre, il faut bien comprendre qu'un cas de maltraitance est un cas de trop. L'autre chose qui est un peu imparfait encore au niveau de la loi, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore trop peu de mesures coercitives, donc à savoir qu'est-ce qui se passe une fois. Il n'y a pas de sanctions pénales, dans le fond, qui sont accordées s'il y a des signalements qui ne sont pas faits ou encore s'il y a des gens qui pourraient être punis à l'intérieur de différentes situations, hormis des recours qui pourraient être mis en place là par les personnes qui sont intimées elles-mêmes. Donc, on comprend actuellement qu'on ne fait des pas. Qu'il y a des situations de maltraitance qui sont encore présentes. Puis notre grand défi, c'est surtout d'amener les aînés eux-mêmes à dénoncer. Parce que tu sais, on parle de la maltraitance en institution, on parle de maltraitance dans le réseau de la santé, mais il y a toutes celles qui n'ont pas de visage qui fait directement chez les individus, dans les maisons, dans
oui,
les enfants,
c'est
dans
ça.
Les foyers.
Souvent, c'est des proches.
Ben, écoute, je sais pas si tu as vu des données juste de la presse, mais les signalements qui ont été faits dans le domaine de la santé, 69% des cas de maltraitance, c'était des gens de la famille proche. Donc, il y a là une source d'inquiétude. Il faut voir comment on peut corriger les situations et comment aussi on peut donner des zones de confort, faire de l'accompagnement auprès des aînés pour les amener à dénoncer ces situations-là. Mais tu sais, c'est pas facile en même temps.
Ben non!
Dénoncer tes proches, t'es vraiment dans un dilemme quand souvent aussi ça va être ces personnes-là qui vont être tes proches aidants. Donc, ça montre toute la complexité de la maltraitance et l'importance de s'y intéresser pour développer des moyens qui vont mettre les gens confortables, mais surtout qui vont prévenir à long terme que des situations de maltraitance continuent d'exploser.
Fait qu'il faut envoyer un message clair.
Voilà.
Il faut envoyer un message clair. Maintenant, il y a un site, je le trouve super intéressant. Il s'appelle Emilia. Et puis, c'est pour aider les gens, si j'ai bien compris, à se choisir un milieu de vie où ils pourraient être bien.
Oui, c'est un site qui va avoir de l'information pour aider les aînés et leurs proches dans leur choix de leur milieu de vie. Bon, on sait qu'on a passé souvent 30, 40, 50, 60 ans dans notre demeure, puis qu'à un moment donné, on pense à se rapetisser ou à modifier le type d'hébergement qu'on a besoin. Donc, en fonction des besoins, moi, de mes besoins actuels et futurs, quel type d'hébergement qui serait plus approprié? Est-ce que c'est une maison de génération? Est-ce que c'est une résidence privée? Est-ce que c'est une ressource intermédiaire? Est-ce que ça serait un logement? Est-ce que ça serait un condominium? C'est quoi la meilleure formule pour moi? Donc, cette plateforme-là qui s'appelle Emilia, qui a été développée par le réseau FADOC avec différents partenaires, notamment l'Université de Sherbrooke, va être mise en place. Et actuellement, on est dans la période, je dirais, Annick, là, d'une deuxième phase de rodage de la plateforme. Donc, on est à la recherche de personnes qui seraient intéressées à participer au rodage de la plateforme, dans le fond. Donc, j'ai partagé, les gens ont jusqu'au 10 novembre pour s'inscrire. J'ai partagé les coordonnées du site pour s'inscrire sur notre page Facebook. Les gens vont déjà voir là, de quelle façon ça fonctionne. C'est vraiment très, très intéressant. c'est très dynamique, puis c'est surtout que ça va nous donner un instrument objectif qui va permettre aux aînés eux-mêmes, mais également à leurs proches, de faire des bons choix de vie. Parce que, tu sais, des fois, les gens prennent conscience qu'il faut qu'ils modifient leur type d'hébergement. Mais
Oui,
ils vont le faire,
oui.
des fois, en fonction de leurs besoins actuels. Mais ils n'ont pas de tendance à se projeter dans le futur, parce qu'il faut toujours penser qu'il y a la perte de limitations fonctionnelles également qui va venir un jour puis qui va avoir une incidence sur notre qualité de vie. Donc, à quel moment on doit le faire? Est-ce qu'au moment où je dois changer d'habitation, je dois aller vers tel type pour une personne avec une perte d'autonomie plus grande? Donc, voilà un outil qui est très, très intéressant. Ça se substitue pas non plus à ce qui existe au niveau des CLSC, mais on sait que les CLSC vont plus, eux, conseiller pour lorsque la personne est à un niveau de perte d'autonomie qui est un peu plus grand. Donc, voilà un outil de référence très, très intéressant que je vous invite à consulter sur la page Facebook.
Oui, puis il faut le faire de bonne heure, puis il faut bien réfléchir par rapport à ça, parce que souvent, les gens, ils sont à la maison, sont habitués dans leurs choses, mais ils ont perdu beaucoup, beaucoup d'autonomie. Fait qu'à un moment donné, quand ils arrivent en résidence, bien, ils ont des tests à passer. Tu peux pas décider de prendre autonome ou semi-autonome comme tu veux, là. Je veux dire, il y a quand même des discussions qui se font avec les maisons. Puis des fois, les gens, ils sont pas contents, là. Ils se voient pas là où ils sont.
Et c'est pour ça qu'un outil comme celui-là va permettre d'une façon neutre d'aller juger de différentes situations. Comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'il y a une perte d'autonomie un peu plus grande qui s'installe, bien, les professionnels du CLSC ont des outils de référence pour vraiment coter l'autonomie des personnes et dire, bon, bien, vous avez besoin d'une ressource intermédiaire, vous avez besoin d'un CHSLD. Donc, eux sont vraiment plus en mesure de le faire. Mais lorsqu'on a une certaine autonomie puis commence à avoir certaines pertes, quel est le meilleur milieu de vie pour moi? Bien, Emilia va répondre à un besoin qui va être très, très présent. C'est aussi une collaboration avec des partenaires, l'appui pour les proches aidants et les centres d'accompagnement aux plaintes, qui sont des partenaires FADOC de longue date, qui travaillent de concert avec l'Université de Sherbrooke à cette plateforme-là.
J'ai une question pour toi, parce que là, c'est sûr, on est en train de se parler, toi et moi, puis on parle des personnes plus âgées, les résidences et tout ça, mais la FADOC, vous nous prenez à partir de 50 ans. C'est à partir de quel moment on commence à réfléchir à tout ça, ce qu'on a envie, ce qu'on veut, ce qu'on voudrait?
Ce qui est certain, c'est que si on regarde en moyenne, au Québec, on va avoir la perte de limitation fonctionnelle, là, quelque chose qui va avoir une incidence sur notre quotidien. On ne parle pas d'une incidence nécessairement très, très marquée, là, mais autour de 67 ans.
Okay.
Donc, à quelle vitesse le reste va suivre? Bien, ça dépend beaucoup de l'état de santé de la personne, des contacts qu'elle va garder, de quelle façon elle va se stimuler, autant physiquement qu'intellectuellement, parce que naturellement, si ces stimuli ne sont pas là, bien, la perte va s'accélérer plus rapidement. Donc, si on a une certaine forme de stimulation, un milieu qui est adapté, à ce moment-là, les pertes vont être beaucoup, beaucoup plus lentes, de sorte qu'on va repousser le déplacement dans des milieux d'hébergement plus spécialisés. Donc, mais les gens, c'est bien certain que tout ça est en fond. C'est pas une vérité de la palette que c'est tout le monde à 67 ans, mais ça donne une idée à partir de quand. Puis on a tendance à voir aussi que cet âge-là augmente parce qu'on voit que les gens quand même qui arrivent en meilleure santé. Donc, je pense que c'est à considérer. Puis surtout, je pense que ce que la plateforme Emilia va vous allumer, c'est sur des éléments des fois qu'on ne pense pas. On prend pour acquis, notamment dans le cas des maisons intergénération. C'est un concept qui est très intéressant sur papier, mais il y a beaucoup de gens qui oublient aussi l'impact sur la vie de couple là-dedans. Donc, ça, c'est un autre élément qui est à considérer pour lequel là, la plateforme Emilia vous a apporté des réponses.
Bien, on va aller voir ça, assurément. Maintenant, on va parler de films, parce qu'il y a il y a des films à voir sur les aînés. Là, je suis sur le site, en fait, là, de
l'ONF.
Oui,
c'est vraiment très intéressant. C'est, encore une fois, là, la plateforme AVA, une collaboration de la FADOC avec différents partenaires, qui est allée mettre en ligne différents films sur la santé des aînés. Vieillir en beauté, 7 films sur la santé des aînés, c'est en collaboration avec l'Office national du film. On parle là-dedans de toutes sortes de personnes qui ont conservé de bonnes habitudes de vie. On parle également de l'Alzheimer. On parle du fameux Jack Rabbit, la
légende. Oui, le skieur centenaire.
Oui, exactement. De la dame de 105 ans qui était notre grande centenaire. Mm-hmm. Donc, un documentaire qui est réalisé par son arrière-petit-fils. Donc, j'invite les gens à aller voir, qui veulent passer un bon moment, faire de l'écoute intéressante tout en apprenant sur des personnes, je dirais, qui ont conservé une bonne longévité, ben, ces liens-là ont été partagés sur notre page Facebook. Donc, vous pourrez avoir accès gratuitement à ces films-là qui sont accessibles en mode virtuel, bien entendu.
On va terminer avec votre proposition de jeu ludique.
Oui, puis écoute, on a fait une activité spéciale à l'intérieur de nos jeux ludiques dernièrement, mais on sait que c'était l'automne, donc ça fait quand même 2 semaines, j'en avais pas parlé encore, j'ai décidé de vous en parler. On sait que l'automne, c'est souvent une période propice à la cueillette des champignons, donc on a un petit casse-tête là-dessus qui a été partagé dans les jeux ludiques, mais on a également un mot croisé sur Michel Côté, qui était fin. On sait que Michel est un homme qu'on a énormément apprécié dans la région, que malheureusement on a perdu, là, un artiste de grande valeur. Mm-hmm. Donc, les gens peuvent toujours aller consulter là, l'ensemble de nos jeux. Il y en a d'autres qui ont été ajoutés au cours des dernières semaines. C'est une section qui est vraiment très consultée sur notre site, beaucoup plus qu'on le pense. Donc, c'est pour ça que je me fais un plaisir de le rappeler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont passer du temps pour compléter les différents jeux qu'on met en ligne. Donc, je le rappelle, c'est au fadoc.ca, partagé sur notre page Facebook, Fadoc Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Merci beaucoup, Patrice. À la semaine prochaine.
Bye-bye.